Voilà, c'est le moment du message. Et le premier verset de ce message se trouve en Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est Ésaïe, 700 ans avant, qui avait annoncé ce signe. En hébreu, Immanuel veut dire Dieu vient avec nous, Dieu est avec nous. Et effectivement, Noël, c'est Dieu qui est venu vers nous. Il n'est pas resté caché dans l'univers, dans les étoiles, dans les galaxies, dans sa gloire et dans sa lumière inaccessible à l'homme. Il s'est déplacé, il est descendu parmi nous. Les hommes envoient des sondes et braquent des télescopes pour voir s'il y a la vie quelque part dans l'univers. Et il passe complètement à côté du Créateur de l'univers, de celui qui habite et qui remplit l'univers, de notre grand Dieu vivant. Mais lui, il est venu vers nous. Il n'a pas simplement envoyé des anges, bien que dans le récit de Noël, les anges viennent préparer le chemin et viennent annoncer aux bergers notamment que le Messie est là. Mais il n'a pas seulement envoyé des prophètes, bien qu'il ait envoyé Jean-Baptiste, bien qu'il ait annoncé par Ésaïe que le Messie viendrait de David, de Judas, d'une vierge qui naîtrait à Bethléem. Tout ça s'était prophétisé. Mais Dieu est venu en personne. Il n'a pas simplement envoyé des émissaires, c'est lui qui s'est déplacé vers nous. En Matthieu 1, 21, je lis aussi, « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » D'une certaine façon, Jésus a deux prénoms. Moi, j'ai trois prénoms qu'on m'a donnés à ma naissance pour l'état civil. Et Jésus, lui, il s'appelle Emmanuel et Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur ou Dieu sauve en hébreu, et Emmanuel donc, Dieu avec nous. Et ça correspond tout à fait à ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour nous sauver. Dieu, notre Créateur, a bien vu la déchéance humaine. Il a vu les injustices. Il y a un moment où on n'en peut plus des injustices. Il y a énormément d'injustices sur la terre. Et elles ne sont pas dues à Dieu, 99,99% sont dus à nous, les hommes. Nous sommes injustes les uns envers les autres. Et Dieu voit tout ça. Il voit les guerres, il voit les meurtres, il voit la cruauté des hommes. Il voit les abus, il voit la corruption. Et il est venu nous sauver de tout ça. Il est venu nous sauver. L'évangile de Jean dit « La loi a été donnée par Moïse ». Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse, le grand conducteur du peuple juif d'Israël, a reçu en révélation la loi, les 10 commandements, qui donnent une base à notre vie en société, qui nous aide à comprendre le bien et le mal, et notamment qu'il y a un Dieu que nous devons aimer, remercier, adorer, et qu'il y a des créatures de Dieu que nous devons respecter et aimer. Toute la loi est résumée en 2 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais cette loi, en fait, nous condamne. Quel est l'être humain qui aime Dieu correctement? Quel est l'être humain qui aime les autres ou qui respecte les autres correctement? Qui n'a jamais failli devant les commandements de la loi de Dieu? Alors c'est pour ça que Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. La loi nous condamnait, mais Jésus est venu nous sauver. Dieu n'a pas envoyé un juge pour punir notre désobéissance. Il a envoyé un médiateur de grâce. Aujourd'hui, dans certains conflits sociaux ou de voisinage, il faut un médiateur. Et normalement, le médiateur, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut encore résoudre le conflit. C'est qu'il y a encore une chance de s'en sortir. Les deux parties n'arrivent pas à s'accorder. Ça va être le clash, ça va être la division totale. Ils vont être séparés pour toujours, mais on dit, un médiateur peut-être va arriver à faire quelque chose. Et Jésus-Christ n'est pas venu juger, condamner les hommes, il est venu faire la médiation entre nous et le Créateur et notre Dieu. Nous sauver de nos péchés, de la condamnation qui découle de ces offenses à Dieu. Mais c'est vrai que lorsque Jésus-Christ reviendra, la Bible dit qu'il viendra juger le monde. La première fois, il est venu gracier, sauver, pardonner, révéler, faire le lien entre Dieu et nous. Mais la deuxième fois, il viendra juger. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, je lis, « Les hommes disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !» Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? C'est étonnant, hein, cette phrase, la colère de l'agneau. Un agneau, ça symbolise la douceur, la faiblesse, mais un jour, l'agneau viendra juger et punir tout le mal, toute injustice, toute cruauté, tout mensonge, tout péché qui a été commis sur la terre. Mais Noël célèbre justement la grâce, l'amour, la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde ? C'est un mot qu'on emploie souvent dans les églises, mais qui n'est pas toujours compris. La miséricorde, c'est de ne pas nous donner ce qu'on mérite, c'est-à-dire de ne pas nous punir alors qu'on le mériterait. Ça, c'est la miséricorde. Et la grâce, c'est l'inverse. C'est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde, Dieu ne nous punit pas selon nos péchés. Heureusement, il n'y aurait aucun survivant ici. Dans sa miséricorde, il nous tend la main. Il est venu. Il est venu nous sauver. Je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 1, ce cantique. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Les entrailles de la miséricorde. Le traducteur n'a pas trouvé de mots pour traduire cette expression. Aujourd'hui, on dirait les tripes de Dieu. Dieu nous aime dans ses tripes. Dieu n'est pas un être froid, une sorte de grand robot ou d'administration qui nous voit comme des numéros. Dieu est un être vivant, intelligent, et il nous aime avec ses entrailles, c'est-à-dire de tout cœur. Et il vient éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. L'autre jour, j'ai rendu visite à cette sœur en Christ qui est à l'hôpital et elle a des métastases dans le cerveau et les médecins disent elle est à la fin. Et vous savez, quand vous visitez une personne qui est à la fin, vous relativisez tout le reste. Vous dites, voilà, cette personne, je lui parle, on se parle, et puis dans quelques jours, elle ne sera plus là. La mort l'aura emportée. Ça fait beaucoup réfléchir à sa propre vie et aussi à l'éternité. Nous sommes tous, en fait, dans l'ombre de la mort. La mort plane sur nous tous. On ne sait pas à quelle heure on va mourir, ni à quel âge. Et Jésus est venu nous sauver de cette mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir physiquement, mais quand on est sauvé par Jésus-Christ, on ne meurt plus éternellement et spirituellement. La mort n'est qu'un passage. C'est merveilleux d'avoir la vie terrestre, d'avoir cette vie, cette terre, tous ceux qui nous entourent, mais c'est encore plus merveilleux d'avoir la vie éternelle et d'en être certain parce que Christ nous a sauvés. Dieu est devenu un homme pour nous. Je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Il parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, et il dit « La parole a été faite chair », Jean 1, 14. « Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean a vu Jésus, hein, il a passé beaucoup de temps avec lui, et il dit « Quand je le vois et quand je l'ai vu, je voyais la gloire du ciel, la gloire de Dieu le Père devant moi. » C'est Dieu fait chair, Dieu incarné. C'est-à-dire, non seulement Dieu est venu, non seulement il est venu nous sauver, mais il est devenu un homme. Est-ce que vous aimez les chiens? Moi, j'aime bien les chiens. Il y en a qui aiment les chats aussi. Est-ce que vous aimez les chats? Oui. Est-ce que votre rêve, c'est de devenir un chien ou un chat? Personnellement, je ne voudrais pas quitter ma vie humaine. Même si j'aime les chiens ou les chats, je les laisse tels qu'ils sont et moi, je veux rester un être humain. Dieu a quitté sa gloire, sa position divine. Là où il n'y avait que sainteté, lumière, perfection, et il est descendu sur la terre, là où il y a le chaos, mais ce n'est pas qu'il est descendu avec un ascenseur en arrivant avec sa force et sa gloire et sa grandeur, c'est qu'il est devenu un homme. La parole a été faite chair. Il est né comme cette petite que nous avons vue ce matin, petite Esther. Il est devenu un petit bébé dans les bras de sa mère. Je pense qu'on ne réalise pas assez que le Dieu de l'univers, le créateur de notre univers, est devenu un petit bébé, fragile. Le Dieu qui est entouré de gloire est né en Jésus dans une mangeoire d'un petit village de Bethléem. Le Dieu qui est parfait de toute éternité est devenu un bébé fragile et il a dû grandir, dit la Bible, en stature et en sagesse. Le Dieu qui ne peut jamais faiblir a été fatigué en Jésus. Jésus a appelé ceux qui sont fatigués à venir à son repos. Le Dieu qui n'a besoin de rien a eu faim en Jésus. Et Jésus s'est appelé le pain de vie et il a donné du pain miraculeusement à la foule. Le Dieu qui n'a besoin de rien a eu soif en Jésus et Jésus est appelé l'eau de la vie et il a donné cette eau de la vie à ceux qui croient en lui. Le Dieu qui ne peut jamais voir le mal, qui est dans une sainteté triple et absolue, a été tenté, dit la Bible, comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus était le Saint de Dieu. Le Dieu qui est invincible, qui est indestructible, qui est immortel, a été moqué, a été giflé. On lui a craché dessus. Il a été cloué sur une croix en Jésus. Le Dieu qui donne la vie à toute chose a souffert jusqu'à l'agonie en Jésus. Voilà ce qu'a fait le Seigneur à Noël. Il est venu, il est devenu un homme. Et non seulement il est devenu un homme, mais il est devenu l'homme le plus humble qui soit. J'aimerais lire dans Philippiens chapitre 2 ce magnifique passage. Paul aux Philippiens, chapitre 2. partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et littéralement c'est d'esclave. En devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce Jésus qui était égal à Dieu, qui était Dieu, mais qui a accepté de devenir un homme humble, le plus humble des hommes. Il s'est occupé des personnes les plus basses dans la société. Je pense aux lépreux, par exemple. Ça me retourne toujours la façon dont les lépreux étaient traités. Les lépreux étaient parqués dans un quartier. Ils portaient des vêtements qui cachaient tout leur visage et leur corps. La lèpre n'était pas soignée ni guérie. Et la famille, quand elle venait encore les voir, leur apportait de la nourriture à un endroit, déposait tout et repartait en les saluant de loin. Ces personnes, du jour où on leur disait « ça y est, tu as la lèpre », savaient que leur vie était terminée. C'est-à-dire ils devaient quitter leur famille, leur femme ou leur mari, leurs enfants. Ils ne les verraient que de loin. Ils devaient quitter leur travail, ils devaient devenir des mendiants qui allaient côtoyer d'autres lépreux. C'était la pire condition possible. Et c'est pour ça que l'Évangile parle souvent de Jésus qui va voir les lépreux. Et même il y a un moment où Jésus touche un lépreux. Quand vous pensez à ça, les gens ont dû être choqués autour de lui. Ils l'ont vu partir vers le quartier des lépreux, ils l'ont suivi de loin. Ils se sont dit, mais où il va? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Et ils l'ont vu rentrer dans le quartier des lépreux. Et même les lépreux devaient s'écarter des autres, en disant « impur, je suis impur !» Et Jésus est allé vers un lépreux, il a dit « est-ce que tu veux être pur ?» Il a dit « oui, je le veux. » Et Jésus a dit « sois pur !» et il l'a touché. Et l'homme a été guéri instantanément. Si Jésus a fait ça, s'il est allé vers les personnes les plus viles, les prostituées étaient des femmes qui avaient mal tourné et qui cherchaient à vivre en vendant leur charme, peut-être parce qu'elles étaient veuves pour certaines, ou parce qu'elles étaient abandonnées, ou parce que simplement elles ont mal tourné dans leur vie. Elles n'ont pas voulu faire ce qu'il fallait. Elles se sont retrouvées dans cette vie. Et Jésus est allé vers les prostituées. Un jour, Jésus est invité chez ce pharisien, donc un homme pieux et religieux qui s'appelle Simon. Et c'est un petit banquet qui est offert en l'honneur de Jésus. Il y a plein de gens qui rentrent là dans la maison. Jésus arrive, le maître lui dit « assieds-toi près de moi ». Il s'assoit, il commence à discuter tous les deux. Et puis soudain, il y a une femme qui entre, une femme qui était connue pour être une prostituée. Tout le monde le savait. Mais peu de temps avant, elle avait rencontré Jésus-Christ. Et elle s'était repentie et elle avait été pardonnée, sauvée par Jésus-Christ. Et là, elle vient et elle saute aux pieds de Jésus et elle se met à pleurer. Et avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus avec ses larmes. Et le pharisien, en son fort intérieur, il dit « Mais si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. » Et Jésus, qui lit dans les pensées, il dit « Dis-moi, Simon, j'ai une question à te poser. Oui, quand je suis rentré dans ta maison, est-ce que tu m'as fait un baiser ?» Parce que c'était la coutume de l'hospitalité. Quand vous aviez un invité, vous le saluez avec un baiser. Il dit non. « Est-ce que tu m'as lavé les pieds ?» Car c'était la coutume aussi. Tout invité devait avoir les pieds lavés parce qu'il y avait plein de poussière, on avait des sandales et c'était la coutume. Il dit non. « Regarde cette femme. Non seulement elle m'a embrassé, mais elle m'a embrassé les pieds. » Non seulement elle m'a lavé les pieds, mais elle les a lavés avec des larmes. Et Simon le pharisien était fier de sa notoriété, de sa position sociale. Il était un bon religieux, mais en fait, il était rempli d'orgueil. Et Jésus est venu révéler quelque chose, c'est que Dieu va au plus bas, vers les plus bas, les plus vils, les plus méprisables. L'amour de Dieu est venu chercher tout en bas, dans le purin des hommes. Et ça montre que Dieu n'aime pas simplement les gens bien. Dieu aime toutes ses créatures. Et il veut sauver les pires des personnes. Vous dites, peut-être, moi je suis trop mauvais pour être racheté. Vous dites, oh là là, j'arriverai jamais à être comme ces chrétiens. J'ai fait des choses irréparables dans la vie. Et puis, personne n'attend plus rien de moi. Je suis trop vieux ou trop vieille. C'est trop tard, j'ai passé ma chance. Eh bien, sachez que non. Si le Seigneur a pardonné au brigand repentant sur la croix. Cet homme était sur la croix parce qu'il avait commis un crime avec son collègue. Il méritait la mort. Et pourtant, il s'est repenti. Et il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Et Jésus l'a pardonné. Il lui a dit, « Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. » Si Jésus a pu pardonner ce criminel repentant, il peut pardonner à la pire des personnes, quoi que vous ayez fait. Vous pensez que vous n'êtes pas digne d'intérêt, que vous êtes inintéressant. Eh bien, Dieu s'intéresse à vous. Vous pensez que vous êtes peu aimable ou vous faites un effort pour être peu aimable, pour que les gens ne vous embêtent pas. Il y a des gens comme ça. Ils disent, moi, je vais leur montrer qu'ils vont, il ne faut pas m'embêter, il ne faut pas me déranger. Je vais chaque fois qu'on me parle, je vais répondre un truc un peu sec. Eh bien, même si vous êtes peu aimable, Dieu vous aime et vous cherche. Peut-être que vous fuyez Dieu, que vous faites tout pour ne jamais lui faire face. Mais Dieu vous cherche et vous regarde. Il veut sauver, pardonner le coupable que vous êtes, que nous sommes. La Bible dit, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ n'est pas mort pour des gens merveilleux, des saints, des gens qui prient, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, des prophètes, des missionnaires. Non, il est mort pour des pécheurs. Et le passage dit aussi des impies, c'est-à-dire des personnes qui ne reconnaissent pas Dieu dans leur vie, qui ne le remercient pas, qui ne l'adorent pas. Il est mort pour nous tous. Maintenant, pour être sauvé, il faut l'accepter dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est mort pour tous que tous sont sauvés. Il faut se repentir. Le brigand sur la croix, il s'est repenti. La prostituée, elle s'est repentie. Le lépreux, il a dit « Purifie-moi ». L'aveugle, il a dit « Donne-moi la vue ». Il faut s'adresser au Seigneur. « Seigneur, purifie-moi. Seigneur, donne-moi la vue spirituelle. Donne-moi la vie éternelle. » Enlève le mal qui est plus fort que moi dans ma vie. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qu'on ne connaît pas, et dont les paroles en français disent ceci. Ô Dieu créateur du soleil des étoiles, ô Père tout-puissant, éternel, toi qui es si grand, je me demande comment tu peux habiter en moi. Toi pour qui l'univers tient dans la main, toi qui crées les choses de rien, tu m'aimes et t'occupes de mon petit monde, de ma petite vie à moi. Le Seigneur s'occupe, s'intéresse à nous. Je ne suis rien, je ne suis personne. Tant mieux. Dieu s'intéresse à moi. Dieu m'aime. Et il est venu en personne le prouver et me chercher. Alors devant cette humilité de Dieu, l'humilité n'est pas une vertu louée de nos jours. L'humilité peut être considérée soit avec mépris, soit avec adoration. Et là, c'est à nous de répondre à l'humilité de Dieu. Le mépris, c'est « Oh, Jésus, c'est une chiffe molle !» Moi, j'aime les guerriers, j'aime les vainqueurs, les dominateurs, fiers comme Artaban, les gens charismatiques, les leaders, self-made man. Jésus, t'es là, au service des autres. Il s'est fait avoir, bien sûr, tout le monde a profité de lui. Il traitait les femmes et les enfants au même titre que les hommes, vous vous rendez compte? Il n'a pas levé d'armée, il n'a pas cherché à grimper les échelons du pouvoir. Et quand il faisait une guérison, il disait à la personne, ne le dis surtout à personne. Après 3 ans de service acharné où il a parcouru la Galilée, la Judée, la Samarie, faisant des choses, des guérisons, etc., il n'avait que 70 disciples. C'est un échec commercial absolu. Hein. Il aurait besoin des as du marketing moderne. D'ailleurs, le marketing s'est invité dans les églises de nos jours, hein, pour le pire. C'est comme ça qu'on peut considérer la vie de Jésus-Christ. C'est comme ça que beaucoup le considèrent, oui, quelqu'un qui est mort sur une croix, franchement, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Quelqu'un qui n'avait que 70 disciples, quelqu'un qui est juif, hein, il y a des antisémites qui vont dire, c'est pas un juif qui va m'aider. Jésus était tout cela, mais il est le seul qui peut vous sauver. La Bible nous dit que Dieu est venu confondre les forts par les faibles. Et que l'orgueilleux, hein, chutera et sera jugé, alors que le humble sera gracié. Heureux les humbles, a dit Jésus. Et son message était révolutionnaire. Hein. Heureux les humbles. Il n'a pas dit heureux les vainqueurs qui se battent et qui arrivent. Non, heureux les humbles. On peut mépriser Jésus ou on peut l'adorer. Comment un Dieu si grand a pu s'intéresser à nous, a pu accepter de descendre, d'être un homme? Jésus-Christ est toujours un homme dans le ciel. Il est un homme glorifié, mais il reste un homme. Dieu est devenu un homme pour toujours. Il n'est pas qu'un homme, hein, il est toujours Dieu. Mais il a pris la condition humaine. Pourquoi s'intéresserait-il à moi? Pourquoi donner sa vie pour moi? Pourquoi lier sa vie avec la mienne? Je n'en suis pas digne, je ne mérite pas. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu as fait. Et vous avez remarqué qu'à la naissance de Jésus, les bergers sont venus adorer le Fils de Dieu. Les mages sont venus offrir tout ce qu'ils avaient de plus précieux, adorer le Seigneur Jésus. Dans le temple, quand Jésus a été présenté, lorsqu'il avait 8 jours, il y avait 2 personnes là. Comment elles s'appelaient? Anne et l'homme, Siméon. Des personnes âgées. Aujourd'hui, on a tendance en France à mépriser. Dès que vous dépassez 50 ans, c'est fini, il faut vous mettre dans un tiroir. Eh bien, dans la Bible, ces personnes qui avaient passé des années dans la prière et dans la fidélité avec Dieu, ont pu toucher de leurs mains le Messie et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. Élisabeth, la parente de Marie, a adoré quand elle a vu l'enfant et senti l'enfant dans le sein de Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a adoré. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté un cantique d'adoration. L'histoire de Noël dans les évangiles s'est remplie d'adoration, de louanges, de cantiques. C'est pour ça qu'on aime bien chanter des cantiques de Noël. Parce que quand vous comprenez l'incarnation de Dieu, vous ne pouvez qu'adorer ou mépriser. Quelle est notre attitude ce matin? J'espère évidemment qu'on va l'adorer de tout cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et pourquoi je l'aime? Je l'aime parce qu'il est descendu. Je l'aime parce qu'il a donné sa vie pour moi. Je l'aime parce qu'il a renoncé à tout, parce qu'il n'a pas regardé à la souffrance, à quitter sa gloire pour moi. Et Seigneur, moi aussi je veux donner mon cœur et ma vie à ce Dieu si extraordinaire. Terminons par la prière et ensuite on va chanter un cantique. Seigneur, nous sommes vraiment indignes de ton amour et nous n'avons pas mérité que tu descendes. Tu aurais pu nous condamner, nous juger depuis le ciel et nous l'aurions bien mérité. Mais tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu de grâce et tu es venu en la personne de Jésus manifester la grâce et la vérité. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons et nous voulons être remplis de cet esprit d'adoration toute cette période particulièrement. Seigneur, nous ne voulons pas nous incliner avec le monde devant les divinités, les idoles matérialistes et humanistes. Nous voulons nous incliner devant le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur d'Israël et du monde. Seigneur, nous prions pour ce monde. Nous prions pour le peuple juif, qu'il y ait beaucoup qui te reconnaissent comme leur Messie, que tu nous aides à les atteindre avec l'Évangile. Nous prions, Seigneur, pour les non-juifs, pour ceux qui sont d'autres religions, que tu les aides à voir le Messie, le seul Sauveur. Merci, Seigneur, d'avoir fait la médiation. Je prie que s'il y a quelqu'un ce matin qui est parmi nous et qui ne te connaît pas personnellement, que tu te révèles à cette personne par ton esprit et ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un cantique, « Salut, blanche étoile ». Et si vous voulez bien vous lever avec moi pour le chanter. On va le chanter de tout cœur avec un esprit de louange. Après quoi ce culte sera terminé.
Salut, blanche étoile. Au plus haut du ciel rayonne sans voile splendeur de Noël. Venez tendre enfance qu'un chant d'espérance. Venez tendre enfance qu'un chant d'espérance. S'élance jusqu'à l'éternel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur. Tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère. Dieu même au mystère se fait notre frère et vient sur la terre sauver le pécheur. Le Fils adorable, lui le roi des rois, meurt sur une croix. Sa grâce fidèle pardonne aux rebelles. Sa grâce fidèle pardonne aux rebelles. Jésus nous appelle, écoutons sa voix.
Dernière a cappella.
Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Pour l'âme qui t'aime, ta clarté suprême, pour l'âme qui t'aime, Ta clarté suprême est le doux emblème du jour éternel.
Amen et joyeux Noël.